Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». L'histoire de l'humanité, malheureusement, on peut dire, est jalonnée de crimes dont on a parfois perdu la mémoire, mais dont certains sont restés quand même dans les souvenirs. Et on peut regretter, mais on se demande parfois si l'histoire pourrait avancer sans ces crimes qui régulièrement viennent la jalonner. Je voudrais commencer en bas par une évocation qui, au début du XXe siècle, a déchaîné la presse. Il s'agit d'une femme qui a tué une quantité d'enfants. Elle s'appelait Jeanne Weber, elle est morte en 1918. Et ce qui est bizarre, c'est que elle a tué des enfants, elle a été condamnée, on l'a relâchée, après on l'a internée, on l'a relâchée, elle a continué à tuer des enfants. Finalement, elle est morte internée. Je ne peux m'empêcher de penser à ce sujet, à tous ces crimes, tous ces assassinats d'enfants qui restent malheureusement impuni. Mais remontons un peu plus loin dans l'histoire, je voudrais commencer par un assassinat célèbre. En 44 avant Jésus-Christ, c'est l'assassinat de Jules César. Oh, bien sûr, Jules César, on a retenu parce qu'il a passé le Rubicon, parce qu'il a reçu la reddition de Vercingétorix. Et là, il a été assassiné en plein Sénat. Vous me direz, cela a permis à Shakespeare d'écrire une pièce remarquable, Jules César. Mais c'est peut-être un des plus célèbres crimes qui a jalonné l'histoire. Pour ne pas quitter Rome, un crime assez exceptionnel, c'est l'assassinat d'Agrippine. Alors Agrippine la jeune, parce que il y a eu une autre Agrippine avant elle, était la mère de Néron, la sœur de Caligula. Et au printemps 59, elle a été assassinée sur l'ordre de son fils, Néron. Alors, ce n'est peut-être pas une date mémorable, mais quand même, un fils qui en arrive à faire assassiner sa mère comme ça, ça sort quand même de l'ordinaire. Mais passons à la France. Et évoquons un assassinat bien oublié aujourd'hui, et pourtant, ses suites ont été incroyablement compliqué. C'est l'assassinat de Louis Ier d'Orléans, frère du roi Charles VI. Pourquoi ce crime a une importance exceptionnelle? C'est parce que il marque la rivalité entre les Armagnacs et les Bourguignons. Il marque les étapes de la guerre avec l'Angleterre. Il marque le début de ce qu'on appelait la guerre de Cent Ans. Et après l'assassinat de Louis Ier, commence la guerre civile. En 1419, c'est Jean sans Peur, le duc de Bourgogne, qui s'est assassiné. Au passage, évoquons quand même un faux assassinat. Un faux assassinat parce que, déjà, le complotisme sévissait un peu partout en France. Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII, meurt le 9 février 1450 en accouchant de sa quatrième fille. Elle a 28 ans et bien sûr, on va dire qu'elle a été assassinée. Passons un siècle. En 1572, plus exactement le 22 août, 3 jours après le mariage de Henri de Navarre avec la reine, celle qui n'était pas encore la reine Margot, l'amiral de Coligny est assassiné. Un premier attentat est raté. Le lendemain, il est tué chez lui, dans la nuit. Son corps est traîné dans la rue, il est décapité, émasculé. Et c'est le début de ce qu'on a appelé la Saint-Barthélemy. Avec toutes les conséquences qui ont suivi, c'est-à-dire le déchaînement des guerres de religion. Rien n'est plus terrible dans un pays que lorsque des parties de la population se dressent l'une contre l'autre, surtout pour une question religieuse. Dans la lignée de l'amiral de Coligny, il y a à Blois, en 1588, l'assassinat de Henri de Guise par le roi de France, enfin, sur l'ordre du roi de France, Henri III. Dans la foulée, le frère d'Henri de Guise, qui est cardinal, est aussi assassiné. Leurs corps sont brûlés, leurs cendres éparpillées. La série n'était pas terminée puisque le 14 mai 1610, le roi Henri IV, qui, rappelons-le, a été sacré roi à Chartres le 27 février 1594, est assassiné rue de la Ferronnerie. La rue est bloquée par une charrette de foin. On a dit un fou, était-il si fou que ça, Ravaillac lui porte 3 coups de couteau. Alors, Ravaillac n'avouera jamais aucune complicité. Pourtant, il était supplicié. Son supplice a duré 2 jours. Alors, on a dit bien sûr que Ravaillac a été manipulé, notamment par Henriette d'Entragues, par le duc d'Épernon. En fait, on n'a jamais su. Alors, parmi les grands crimes de l'histoire, on va passer en 1793. Le 21 janvier 1793, un journaliste qui a beaucoup d'influence, qui est au sommet du pouvoir, Jean-Paul Marat, est assassiné dans sa baignoire. Il est médecin d'une famille calviniste et il a lutté pour l'émancipation des Noirs, mais aussi il a poussé au massacre de septembre lorsque la population s'est jetée dans les prisons pour massacrer les gens qui étaient retenus là. L'assassinat de Marat a suscité beaucoup d'émotions. Il a même été, son corps a même été transporté au Panthéon. Il y restera 9 mois. Enfin, après, on le retirera. Et celle qu'il a assassinée, c'est une jeune fille. Elle s'appelle Charlotte Corday. Elle est descendante de Pierre Corneille, l'écrivain. Elle sera jugée le 16 juillet, décapitée le 17 juillet. Alors, un détail, enfin, si vous voulez, un détail, c'est pas vraiment un détail. On a dit que Charlotte Corday était une femme hystérique, que c'était une prostituée, en fait. On a vérifié. C'était bien une jeune fille. Alors, parmi les assassinats qui ont marqué, cette fois-ci, l'histoire des États-Unis, il y a le premier assassinat connu d'un chef d'État américain, Abraham Lincoln. Il a été élu président en 1860, puis en 1865, il a réussi à contenir la poussée des sudistes. Et un soir, il se trouve au théâtre. Son garde du corps quitte son poste pour aller boire à la taverne voisine. Et son assassin, John Booth, lui tire dessus, s'enfuit, et finalement, il sera rattrapé par la justice. Dans le même siècle, on peut évoquer une histoire dont on n'a jamais connu. Elle explique le dénouement. C'est la fameuse histoire de Jack l'Éventreur. Vous savez, c'est 5 victimes dans le quartier de Whitechapel à Londres, un quartier occupé essentiellement par les prostituées. Il y a eu 11 meurtres en 1888. Et sur ces 11 meurtres, 5 victimes sont attribuées au même assassin parce qu'on retrouve les mêmes mutilations sur les cadavres, les prélèvements des organes internes. Aujourd'hui encore, personne ne sait qui était Jack l'Éventreur. Mais c'est la première fois dans l'histoire que on dresse un profilage criminel. On suppose que c'est un homme solitaire, avec une manie érotico-morbide. Alors, pour la petite histoire, pour la toute petite histoire, signalons que des centaines de lettres sont arrivées à Scotland Yard portant la signature de Jack l'Éventreur. En 1898, un meurtre qui n'a pas forcément une importance historique considérable, mais qui quand même dénote quelque chose, est un signe. C'est le meurtre d'Élisabeth d'Autriche à Genève. Oh, Élisabeth d'Autriche, c'est tout simplement celle que l'on connaît au cinéma sous le nom de Sissi. Elle est impératrice d'Autriche, reine de Hongrie. Elle passe tout son temps à voyager parce que dans sa famille, quand même, il y a eu des drames épouvantables. Son fils, Rodolphe, qui a été retrouvé mort à Mayerling. Sa sœur, la duchesse d'Alençon, morte dans l'incendie du bazar de Charité. Louis II de Bavière, qui se serait suicidé ou qu'on aurait suicidé. Alors, en fait, c'est une histoire assez banale, si on veut, parce que celui qui l'a tué, Luigi Lucchini, en fait, n'avait qu'une chose en vue en la tuant, devenir célèbre. On peut dire qu'il l'est devenu. Je vous propose une pause musicale.
Thank you.
1914. Alors bien sûr, 1914, pour nous, c'est avant tout le début de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Mais le 16 mars 1914, Madame Henriette Caillaux, épouse de Joseph Caillaux, qui a été ministre des Finances, entre dans le bureau du directeur du Figaro, lui tire dessus 6 coups de revolver et le tue, évidemment. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pour ce meurtre, elle a quand même tué le directeur du Figaro. Elle sera acquittée sous les acclamations de la foule le 28 juillet 1914. Et maintenant, nous en arrivons à un meurtre particulièrement symbolique. C'est le meurtre de François Ferdinand d'Autriche. François Ferdinand d'Autriche est le neveu de l'empereur François-Joseph. Il est l'héritier du trône depuis la mort de Rodolphe, le fils de François-Joseph. Et à Sarajevo, le 28 juin 1914, il est tué ainsi que son épouse Sophie Chotek. Son meurtrier, Gavrilo Princip, est un partisan de la Grande Serbie. Le drame, c'est que cet assassinat d'un archiduc d'Autriche va être le prétexte, je dis bien le prétexte, au déclenchement du plus gigantesque massacre que le monde ait jamais connu, la Première Guerre mondiale. Mais juste avant que la guerre n'éclate officiellement, il y a un assassinat dont on ne parle plus beaucoup maintenant. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès, né en 1859, fondateur du journal L'Humanité en 1904, est assassiné au Café du Croissant, rue Montmartre. Alors, Jean Jaurès était quelqu'un qui croyait au pacifisme, qui pensait que le conflit pouvait être évité, qui pensait que les ouvriers allaient se mettre en grève, que c'était pas possible que la guerre éclate. Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que, bien sûr, le 3 août, la guerre est déclarée, donc l'assassinat de Jaurès passe tout à fait au second plan. Alors, quand même, après la guerre, son assassin, Raoul Villain, est jugé en 1919 et il est acquitté. Ce qui est étonnant et que je trouve particulièrement révulsant, c'est que la veuve de Jean Jaurès sera condamnée à payer les frais du procès. Pourtant, aucun doute, c'est bien Raoul Villain qui a tué Jean Jaurès, mais en sortie de la Première Guerre mondiale, peut-être faut-il voir là les raisons de cette indulgence pour l'assassin de Jean Jaurès. Alors, pendant la guerre, bien sûr, oh, c'était loin. Mais comment ne pas évoquer un autre assassinat qui a sans doute eu plus d'influence qu'on ne croit sur le destin de la Russie. En décembre 1916, le moine Rasputin, il n'était pas moine, mais on le considérait comme un moine, est assassiné. L'histoire de sa mort a été racontée par ceux qui l'ont assassiné. Il a reçu quantité incroyable de coups de revolver. Il aurait avalé du poison. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et il avait dit une chose qui a marqué les esprits. Il avait dit, si jamais il m'arrive quelque chose, toi, le tsar Nicolas II, tu ne resteras pas sur le trône plus de 3 mois. Et effectivement, en mars 1917, Nicolas II abdique pour laisser la place au gouvernement provisoire, puis au mois de novembre, pour laisser la place au régime instauré par Lénine. Alors, pour la petite histoire, Rasputin a été inhumé à Tsarskoye Selo, la résidence des tsars de Russie. Lorsque le régime s'est effondré, lorsque les communistes sont arrivés au pouvoir, on n'a pas voulu que le tombeau de Rasputin devienne un lieu de pèlerinage, alors on l'a exhumé, on l'a incinéré. Quant au palais où Rasputin a été assassiné, le palais du prince Youssoupov, il a été transformé en palais de la culture et musée de la mode de vie ancienne sur le quai Moïka. Je vous signale qu'on peut toujours visiter ce musée à Saint-Pétersbourg, à l'époque Petrograd. Alors, une chose qui est étonnante, le mythe de Rasputin a continué à vivre dans l'esprit et dans la mémoire, notamment des réfugiés russes. Lorsque beaucoup de Russes ont quitté la Russie pour fuir le régime bolchevique, ils ont emporté avec eux cette espèce de nostalgie de l'époque du tsar. Et on raconte que certaines vieilles dames de l'aristocratie russe de Saint-Pétersbourg étaient persuadées d'avoir récupéré le pénis de Rasputin. Vous me direz, c'est un détail, oui, un détail, mais parfois c'est dans les détails qu'on retrouve les grands courants de pensée de la majorité de la population. Je vous remercie de m'avoir écouté.
sagen, denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun, als dich beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Nun plaudert Papageno wieder. Ich lüge nimmer mehr ein.
Ich schlosse meine Wahrung sein.
Ich schlosse meine Wahrung
sein. Sei deine Wahrung, meine Wahrung sein.
Bekämen doch die Wegner alle ein solches Schloss vor ihrem Mut.
Wie man die Burg wohl finden kann.